Les balados arc-en-ciel de Solus Bien-être par Lucane Berger. Balado numéro 5 de couleur bleue. Lecture du premier chapitre du livre Le mal entendu d'Elisabeth Auclay. S'il était donné à nos yeux de chair de voir dans la conscience d'autrui, on jugerait bien plus sûrement un homme d'après ce qu'il rêve que d'après ce qu'il pense. Victor Hugo. Partie 1. Il dort profondément, ignorant de lui-même. Il rêve de sa vie, il vit de son rêve. De vagues sensations émergent de l'abîme, telles des bulles qui viennent troubler la surface et ébranler son repos. Mais les flots engloutissent cette once de lucidité en suspens. Alors, sa conscience à nouveau se dissout dans les limbes du monde onirique. Chapitre 1. Après un dernier virage, l'avion s'apprête à atterrir à l'aéroport de Reykjavik. Quelques bâtiments austères aux toits rouges, des routes bordées de vert et de gris. Au-delà se déplie une vaste étendue aux couleurs incertaines, perspective fascinante. Pas un arbre. Plus loin, je devine la mer, de plomb, comme le ciel. Légère déception. Les immensités neigeuses dont j'avais rêvé ne sont pas au rendez-vous. La piste déroule son ruban anthracite. Impatient, je découvre à travers le hublot ces images d'un monde mystérieux. L'Islande, pays de glace et de feu, de cratères et de geysers, d'espace infini. Univers des sagas polaires de mon enfance, souvenirs aux contours brouillés et dilués dans les brumes de ma mémoire, qu'ont façonné l'adulte que je suis, accompli et raisonnable. En tout cas, c'est sûrement l'illusion que je donne aux passagers qui m'entourent. Ainsi, voilà le pays des Vikings. Claire tourne un regard complaisant vers moi. Je te l'avais dit, Solal. L'Islande vaut la peine d'être vue. Et puis, je suis sûre que tu ne t'es jamais trouvée à une telle latitude. Je me trompe ? C'est vrai. Jusqu'à présent, je n'ai guère été attirée par les pays nordiques. Ainsi, voilà le pays des Vikings. Surgissent du fond de ma mémoire les couleurs flamboyantes et ensoleillées des contrées exotiques que j'ai eu le bonheur d'explorer. Aux prises avec le fil de ses écouteurs, Claire s'empresse de ranger ses effets personnels et contrôle d'un geste résolu le carré parfait de ses cheveux blonds. L'imminence de l'atterrissage a mis chacun à sa place. Après les dernières consignes, un silence relatif s'est installé dans la cabine, sous l'œil attentif et professionnel des membres de l'équipage en position sur leur strapontin. Mon enthousiasme enfle alors que l'avion freine sa course sur la piste. « Attention, Viking ! Nous voilà !» Claire sourit poliment. Plus rien ne l'étonne de mes errements, qui viennent éclaircir quelques morosités et m'aider à me maintenir debout. Son regard limpide me toise avec indulgence. Elle connaît les méandres de mon existence dans ses moindres virages et chaos. Pourtant, moi-même, je ne sais rien de son intimité. En observant son visage lisse et ses yeux clairs, je mesure l'abîme qui nous sépare, malgré la proximité professionnelle. Secrète, elle ne se livre pas. Et sa vie apparaît comme une ligne droite, nette, imperturbable, protégée par les remparts qu'elle a érigés. Seul transparaît sa posture brillante de médecin neurologue, chef de service, sa réussite sans faille et son caractère volontaire. Mais sur sa vie sentimentale plane le secret. Souvent je m'interroge. Quelle vulnérabilité se cache sous son austérité et sous son humeur versatile? Quelle sensualité sous ses formes presque trop parfaites? À quels abandons peut succomber son corps de star aux proportions si attirantes? Finalement, l'excitation générée par cette escapade arctique me conforte dans ma décision. C'était il y a un mois, à la fin d'un staff, quand Claire m'a demandé de l'accompagner pour ce congrès de neurologie en Islande. Je n'ai pas hésité une seule seconde. Pour quelle raison? Peut-être parce que l'occasion était trop belle. Se retrouver au cercle polaire en plein hiver. Peut-être pour m'échapper quelques jours de cette atmosphère délétère qui règne en France depuis les dernières élections. Ou peut-être pour une raison plus intime. Une furieuse envie qui me gagne ces temps-ci de commencer à réinvestir ma vie, à sortir la tête de l'eau. Un besoin de m'arrimer solidement à quelques rocs et cesser d'être ballotté comme un bouchon dans les flots troubles de mon existence. Une nécessité de sortir de ces ténèbres qui m'assaillent depuis trop longtemps. 5 années déjà, Irène. Ton départ a jeté un voile noir sur mon existence et sur celle de Myrtille qui venait de franchir ses 12 ans. Il a déposé sur mon âme un couvercle de plomb si pesant que rien ni personne n'a pu l'alléger. Mon amour, ton absence m'amputait subitement, me projetait dans un précipice insondable. Et au-delà, il privait soudainement notre famille et nos amis de ta fantaisie électrisante. Oui, ce congrès peut être l'opportunité pour moi de découvrir d'autres horizons, d'éclaircir ma route. Et puis, côtoyer de plus près ce monde de l'industrie pharmaceutique m'interpelle, même si ce n'est pas à Reykjavik que je trouverai réponse à mes suspicions. Toutefois, je me sens prête à me frotter à cet univers trouble et douteux. L'avion s'immobilise. Alors, d'un seul mouvement, les passagers s'ébrouent. Bruit métallique des ceintures, impatience perceptible des corps, récupération des bagages dans les coffres. Portable ranimé sans délai après cette parenthèse de 3 heures. Ce manège rituel me fait sourire. Que serions-nous sans notre smartphone? Je mesure avec ironie cette nécessité vitale d'une reconnexion avec le monde, concédant à ce petit objet dérisoire un pouvoir addictif manifeste. Par la continuité du lien avec nos proches, par l'accès en temps réel à la connaissance, mais aussi pour beaucoup d'entre nous par la sublimation de notre ego avec le partage du roman photo de notre vie. Par là même, cet objet n'est-il pas le support d'une imposture? D'où vient ce besoin de montrer la quintessence de notre vie? Permet-il de lui conférer de l'épaisseur? La richesse d'une existence ne tient-elle qu'à sa mise en vitrine? Ce lien constant et ce narcissisme exacerbé sont-ils les branches auxquelles on s'accroche pour ne pas tomber dans le grand vide? Quel sens donner à cette addiction quasi généralisée? Solal, tu rêves ? Me jette Claire qui se contorsionne pour attraper sa valise dans le coffre au-dessus de nos têtes. Une fois encore, mes pensées se sont échappées. Non, non, je suis là. Le froid nous saisit, sitôt sorti du ventre du géant. Le froid et le vent. Ce souffle glacial nous transperce comme des épées quand, courbés, nous traversons les quelques mètres de tarmac qui nous séparent de l'aérogare. Les contrôles se passent sans encombre. J'observe à la dérobée le barbu à la carrure solide qui nous inspecte, tout en hauteur, blond, aux yeux couleur de la mer, notre premier viking, colossal, et qui me renvoie à mon pitoyable mètre 70. Avec beaucoup d'imagination, il ressemblerait à l'image que je me fais du dieu Odin. Ne lui manque que son cheval et sa lance. J'ai lu quelque part que, en plus d'être le dieu des dieux, Odin était aussi le dieu de la mort. Aujourd'hui, l'enthousiasme de Claire transcende son tempérament impénétrable et ténébreux. Il semble qu'affleure en elle une certaine gaieté, une spontanéité bienvenue qui détend notre relation. Serait-ce l'effet viking, justement ? C'est avec un large sourire qu'elle passe les barrières et traverse l'immense hall, sa valise roulant derrière elle. Me voilà rassurée sur la couleur de notre séjour. Le chauffeur de taxi est anglophone, comme tous les Islandais. Heureusement ou malheureusement, car l'islandais serait une langue en voie de disparition, bientôt surpassée par la langue de Shakespeare. C'est ce qu'il nous explique alors que son taxi fend la route, droit devant entre deux champs de lave, loin des blancheurs hivernales attendues. Sur les côtés, un spectacle étonnant s'offre à nous. Chaos fantasmagorique, amas de déjections basaltiques, anarchie de formes statufiées dans leur course, noir minéral habillé d'un manteau de mousse, étalant sa palette de verre. En contemplant la magnificence de ces étendues, je comprends l'inspiration légendaire des nombreux poètes et écrivains islandais. Dans le silence de l'habitacle gagné par la rumeur du vent, mon esprit s'évade, mes songes m'emportent loin. Me reviennent en mémoire ces histoires effroyables de disparition, enfants ou parents morts de froid, naufragés du blizzard, ensevelis parfois à quelques mètres de leur maison seulement. Quand soudain Claire me tire de ma rêverie. « Hé, regarde, c'est irréel, non ? Oh, on dirait un champ de bataille recouvert de mousse. »« Ce sont des champs de lave, » explique le chauffeur en anglais. « L'Islande en est couverte. Elle n'est composée que de roches volcaniques. »« Oh, je rêverais d'aller m'y balader. Ça doit être si doux. Je savoure déjà sous mes pieds le moelleux de l'épaisse mousse. Me voilà m'allongeant sur ce tapis plein de promesses. Mais attention aux elfes !» me lance Claire en ironisant d'une moue moqueuse. Le chauffeur qui a compris sourit avec malice. Oui, c'est là que vivent les elfes, dans ces champs de lave. On les appelle aussi le peuple caché. Ils sont là, mais personne ne peut les voir. Oh, j'adorerais en rencontrer, dis-je enthousiasmé par cette vision magique. Ça porte bonheur, non ? Je l'ignore, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il arrive qu'ils portent malheur. Certains chantiers ont dû être détournés pour respecter leur habitat. Là, le chauffeur ne sourit plus. « Vraiment ? Ça paraît incroyable !» réagit Claire, sceptique. Je m'imagine douillettement couchée dans la mousse, entourée de ces petits êtres qui grouillent autour de moi et m'examinent de leurs yeux minuscules. J'en attrape un dans le creux de ma paume, attendri par ses oreilles pointues, quand Claire interrompt ma divagation. « Et la neige ? Il n'y a pas de neige !» demande-t-elle, attrapant son téléphone qui vient d'émettre le signal d'un message. « Eh bien, elle n'est pas encore tombée cet hiver, mais elle est annoncée pour ce soir. Vous avez de la chance. » Bientôt, le taxi doit ralentir pour se faufiler dans les embouteillages. S'offre à mon regard curieux un environnement qui rappelle d'autres banlieues européennes en modèle réduit. Ces rues bordées de petits immeubles aux toits rouges ou gris, ces supermarchés à taille humaine. Ça et là pointent des arbres chétifs, rescapés des rafales du vent polaire. Je frissonne à la vue des piétons courbés qui défient les turbulences de l'air et des enfants emmitouflés dans leurs anoraks aux couleurs vives qui traversent une rue sous la surveillance d'un agent au gilet jaune fluo. Ici, un passant se plaque contre l'abribus pour se protéger. Les voitures clinquantes, de marques américaines ou coréennes, me semble dénoter un niveau de vie élevé. Tandis que nous pénétrons dans le centre-ville, les rues se rétrécissent, les maisons aussi. Beaucoup sont en bois. Leurs couleurs vives et pastels côtoyant le blanc et la pierre séduisent mon regard inaccoutumé. Le chauffeur nous présente au passage des ministères publics aux faibles dimensions, surprenants pour nos yeux de Parisiens, habitués au faste de nos édifices gouvernementaux et administratifs. Car j'ai lu quelque part que l'Islande, en plus d'être une île perdue dans l'Atlantique Nord et isolée du monde, est un petit pays par son nombre d'habitants. Me revient en mémoire cette comparaison ahurissante. L'Islande représente l'équivalent d'une grande ville française. Quelles conséquences sur les modes de vie, de pensée, sur les modes relationnels, la conscience collective? Comment l'altérité se vit-elle ici? Comme une richesse ou comme un danger? Résonne-t-elle dans l'harmonie ou dans la dissonance? Est-ce que, à l'instar de chez nous, elle engendre la peur? Cette peur qui hante mon propre pays depuis trop longtemps et dont les instigateurs ont réussi à s'emparer du pouvoir. L'amertume m'envahit en y songeant. Certains avancent qu'on n'a rien vu venir. J'en rage. C'était écrit. Toutes les conditions étaient réunies. La multiplication des affaires, des malversations, des mises en examen de personnalités politiques, le désintérêt général pour les élections, le déclin des valeurs de cohésion et de solidarité, et la montée des individualismes. Et tant d'autres ferments encore. Chaque jour, je peste contre l'accroissement des inégalités qui nourrit ce sentiment d'injustice. Pourquoi les électeurs se sont-ils détournés des urnes au moment crucial du vote? J'ai mis du temps à m'y résoudre. Ce que beaucoup redoutaient est arrivé. Il était élu, le chef du parti du renouveau à la tête du pays. Oui, en France, l'inconcevable s'est réalisé. Surprise! Quelques flocons de neige virevoltent maintenant dans les airs et me ramènent en Islande. L'atmosphère nordique se précise. Assise à mes côtés, Claire paraît préoccupée. Son visage s'est assombri. À cause des messages qu'elle échange depuis quelques minutes sur son téléphone, peut-être ? Nous y sommes. Dans la nuit glacée maintenant tombée sur la ville, les lumières chatoyantes flattent la rue et ses boutiques. L'hôtel, choisi par le laboratoire Berkin, semble d'un bon standing, tout en étant cosy. La chaleur s'abat sur nos têtes quand nous franchissons le sas de l'hôtel. La décoration mêle les éléments, joue sur les contrastes entre la chaleur du bois et la modernité des fauteuils en simili, les banquettes au cuir moelleux et les tables de verre, les lustres métalliques. Plus loin, un bar, taillé dans le bois et l'aluminium, exhibe sa multitude de verres étincelants. Mais mon regard est attiré par un spectacle aussi inattendu que cocasse, près de l'entrée. Un couple de trolls est planté là, plus grand que nature, créature de légende scandinave. Deux personnages de cire, voûtés et vêtus de haillons. Le visage couvert de pustules, hideux dans leur physionomie comme dans leurs expressions ahuries, ils offrent aux clients un air stupide et cupide, mais qui me plaît. Jamais je n'ai rencontré de telles choses. Claire n'a rien vu. Elle échange avec le réceptionniste. « Voilà pour toi », glisse-t-elle en me tendant la clé de ma chambre. « Je suis désolée, mais je dois travailler sur ma présentation de demain. » « Ah oui, c'est vrai que nous ne sommes pas là en vacances. Et surtout elle, en tant que conférencière. » Tout commentaire de ma part serait malvenu, d'autant qu'elle semble soucieuse. Pas de problème. On se retrouve pour le dîner ? Non, tu m'excuses, mais je ne pourrai pas dîner avec toi ce soir. Sa réponse jette un froid et me déconcerte, même si je suis habituée depuis longtemps à son tempérament insaisissable. Il serait déplacé de ma part de poser des questions, et somme toute, l'idée d'une soirée de solitude ne me déplaît pas. Ces moments se font rares dans ma vie de père célibataire saturé par les contraintes professionnelles. La perspective de ces instants de liberté me séduit. Et une parenthèse, pour laisser libre cours à ma pensée et pour tenter de m'apaiser. Les murs résonnent des rafales de vent et je n'ai aucune envie de sortir dans la nuit polaire, non. Je vais plutôt me laisser tenter par un bon bain. J'ai toujours rêvé de m'immerger dans des eaux chauffées par la géothermie. C'est le moment ou jamais. C'était spécifié sur la présentation de l'hôtel. Piscine ouverte de 8h à 21h. Ben ici, on ne regarde pas l'économie d'énergie puisque c'est le bouillonnement du centre de la Terre qui tient lieu de chauffage. En approchant du bassin, l'air chaud et humide me pénètre alors que de gros flocons balayés par le vent viennent s'écraser sur les larges vitres. L'éclairage relaxant des faïences bleues défie la noirceur de la nuit. Le bruit des bourrasques couvre presque les résonances feutrées qui courent en douceur sur le bassin. Seuls quelques nageurs à la peau claire glissent sur l'onde prometteuse. Mon corps accueille avec plaisir cette tiédeur. Nager me procure un bien-être sensuel, dans cette eau d'où émane une légère odeur de soufre, presque agréable. Les gargouillis caressent mes oreilles, tandis que mes muscles se tendent et se déploient avec agilité. J'enchaîne les longueurs dans ce bain de jouvence, dans lequel je noie mes rancœurs et ma mélancolie. Demain, tout peut m'arriver, personne ne m'enlèvera ces précieux instants de félicité. Près du bassin se tient une grande cuvette d'eau à la chaleur à peine supportable. Je m'y glisse lentement et m'assois aux côtés de deux jeunes femmes qui sourient de mes hésitations. Auprès de ces Scandinaves de taille viking, je me sens comme rétrécie. Et ma modeste carrure ne sauve pas ma dignité. Le vent n'a pas faibli qui hurle tout autour des murs de verre. La chaleur ramollit mes muscles. Et mes pensées divaguent entre deux eaux. Myrtille s'invite dans ce moment d'évasion, et les souvenirs défilent. Myrtille, 17 ans déjà. Ma colombe aux yeux doux, posée comme des galets gris sous ses cheveux noirs. Myrtille, secrète et joyeuse, créative et ingénieuse. Myrtille, qui m'a dépassée en taille maintenant et porte haut sa force naturelle, héritée de sa mère. Myrtille, qui commence à laisser tomber sa cuirasse d'adolescente opposante et qui bientôt deviendra une jeune femme avec une belle énergie. Notre complicité ne fait aucun doute, même si quelques accrocs inévitables ternissent parfois le tableau. Peu avant le dîner, sa voix enjouée au téléphone me rassure. Ravie de profiter de mon escapade pour passer du temps chez Justine, sa meilleure amie, elle me décrit sa journée avec moult détails. Allongée dans ma chambre, pénétrée par la rumeur incessante de la tourmente, un peu groggy par la chaleur, je savoure notre conversation empreinte de tendresse et de connivence. Ses jours avec Justine et sa mère, qu'elle adore tout autant, semblent la galvaniser. Elle conclut en riant. « Tu vois, je vais très bien, papa. Tu peux bien rester à Reykjavik le temps que tu veux. » Réconfort et légèreté, je devrais peut-être songer à commencer à me dépoussiérer, à expurger les miasmes de mon passé pour éviter de devenir un père vieillot et bougon. Dehors, c'est un véritable ouragan qui s'abat maintenant. Le vent rugit par intermittence. Le rez-de-chaussée s'est rempli des participants au colloque. Contrarié par ma solitude imposée pour la soirée, rattrapé par la nature de mon séjour et la morose perspective du lendemain, je décide de commencer par le bar. Machinalement, mes yeux scrutent la salle à la recherche de Claire. Je ne peux m'empêcher de m'interroger. Est-elle encore dans sa chambre? A-t-elle prévu de dîner avec des membres organisateurs? Et si c'est le cas, pourquoi ne pas me le dire? Son attitude me rend perplexe. Le malaise me gagne, que j'essaie de chasser en sirotant mon whisky. J'observe cette communauté médicale hétéroclite. Ces spécialistes du cerveau semblent ravis d'être là ce soir, probablement déjà acquis à la cause du laboratoire Berkins, et peu conscients des enjeux dont ils font l'objet. Trois d'entre eux se joignent à moi. La conversation s'engage, mais sans conviction de ma part. Les langues se délient, les voix enflent peu à peu, et bientôt couvrent presque le tumulte insistant de la tempête. Je peine à me fondre dans cette discussion. Mon esprit est ailleurs, hanté par mon vague à l'âme. Émerge de ma mémoire ces temps de communion avec toi, Irène. Autour d'un verre de vin, rubis, au comptoir de quelque bistrot du Marais, pour échanger sur les petits et grands événements de la journée, deviser sur le jeu de la vie, puis façonner le monde à notre idée dans le va-et-vient d'un dialogue à bâton rompu. Plus rien ne comptait pour moi que ton regard pétillant, ton sourire prometteur et ta voix enjouée quand, grisés par l'alcool, nous devenions les maîtres du monde. Cette fébrilité soufflait sur les braises de notre amour jusqu'à nous enflammer. Alors, dans une impatience soudaine, gonflée de désir, nous parcourions les rues, enlacés. Enfin chez nous, l'effusion de nos caresses achevait de nous enivrer pour se sublimer dans l'embrasement de nos corps. Soudain, j'aperçois Claire, là-bas, près des trolls, dans son long manteau noir. Le pas ferme et décidé, elle suit un inconnu vers la sortie. Colosse au regard brûlant, coiffé d'une casquette. Du bar, je les vois s'éloigner, happés par la nuit et le vent. Bientôt pour un autre balado.